voici François Chagnaud qui vous présente le journal. Bonjour François.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comme tous les premiers vendredis du mois, vous le disiez, France Culture vous propose une journée spéciale à l'approche du scrutin du mois de juin. Être européen, c'est aujourd'hui en Allemagne. Il va falloir prendre son mal en patience pour se rendre à l'hôpital. Le partage des ambulances et des taxis sanitaires va devenir obligatoire et ça implique des détours sur la route. 40 000 personnes se prostituent en France. Le gouvernement présentait hier un plan de lutte contre un phénomène en pleine expansion. Alors qu'est-ce que cela veut dire être européen en Allemagne? Dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture, on se penche sur un mastodonte de l'Union européenne, la République fédérale d'Allemagne, l'un des 6 pays fondateurs. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour.
L'Allemagne, c'est d'abord la première puissance démographique et économique en Europe.
L'Allemagne, c'est le 4e pays de l'Union européenne en superficie, mais c'est le seul domaine où elle n'occupe pas la première marche du podium. Avec la réunification, elle a largement distancé tous ses partenaires européens. Il y a aujourd'hui plus de 83 millions d'Allemands. C'est 16% des Européens, ce qui fait d'ailleurs que les eurodéputés allemands sont 96, le plus gros contingent du Parlement, 15 de plus que les Français. Et le pays reste le champion de l'économie européenne. Plus de 4 billions d'euros de produit intérieur brut annuel, soit 4 000 milliards d'euros. C'est plus d'un cinquième du total de l'UE. Même si la croissance allemande a ralenti, qu'elle a même enregistré une contraction en 2023 à cause de la flambée des prix de l'énergie, de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse des exportations.
Et on peut donc toujours dire que l'Allemagne est la locomotive de l'Europe.
Oui, toujours. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est le plus gros contributeur net, le pays qui donne le plus de fonds à l'Union européenne et en reçoit le moins en contrepartie. Surtout, les temps ont changé. L'Allemagne reste avec, par exemple, les Pays-Bas ou le Danemark, un des bons élèves de la classe européenne et souhaite voir appliquer les règles du pacte de stabilité de la zone euro. Mais elle a accepté l'introduction d'une relative souplesse pour permettre aux pays déficitaires de continuer à investir. Surtout, l'Allemagne a mis le doigt dans l'engrenage de la solidarité financière européenne lorsqu'Angela Merkel a accepté le principe d'un emprunt commun pour le plan de relance post-Covid. L'Allemagne est la championne des exportations. On lui reproche quelquefois de s'en soucier plus que des aspects politiques, comme lors du dernier voyage d'Olaf Scholz en Chine, en cavalier seul. C'est aussi la championne de la trajectoire vers une Europe plus verte, même si elle a un taux d'émission de CO2 deux fois plus élevé que la France, en raison en particulier du retour du charbon, même si par ailleurs elle a aussi failli faire capoter l'accord sur les moteurs thermiques en demandant leur prolongation partielle. Et l'Allemagne, c'est aussi le pays le plus efficace au Parlement européen, pas seulement par le nombre de députés, mais aussi du fait qu'ils sont élus par circonscription, qu'ils restent plus longtemps en place et sont plus à même de construire les réseaux qui leur permettront de faire avancer leurs propositions.
Alors, le Parlement européen qui se renouvelle donc dans moins d'un mois en France, la tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella, affrontait hier soir son homologue de Renaissance, Valérie Ayer, leur premier face-à-face télé depuis le début de la campagne. Ils se sont opposés sur l'immigration, la sécurité, l'Ukraine, mais pas sur la mobilisation pour Gaza dans des universités. Hier soir, les étudiants de Sciences Po Paris ont voté un nouveau blocage de l'école aujourd'hui. Aux États-Unis, 200 personnes ont été interpellées sur le campus de l'université de Los Angeles la nuit dernière.
6h33 sur France Culture, la suite du journal de François Chagnaud. Les patients français devront bientôt partager leur taxi sanitaire ou ambulance.
La mesure avait été votée au Parlement à l'automne dernier, mais nos confrères de France Info ont appris que pour aller ou revenir de l'hôpital, les patients pourront faire jusqu'à 30 km de détour. Solène Lehen, vous vous êtes procuré le projet de décret qui doit être publié dans les prochaines semaines. Et cette mesure d'économie inquiète déjà les associations de patients.
Il faudra partager avec d'autres malades son ambulance ou taxi sanitaire avec un détour de 10 km possible par passager et dans la limite de 30 km. Une mesure insensée pour Catherine Simonin de la Ligue contre le cancer et France Asso Santé.
Quelqu'un qui est en radiothérapie pour un traitement anticancéreux, s'il a son temps de trajet normal plus 30 km pour aller déposer les autres personnes, qu'il habite dans une vallée montagneuse, il fait ça tous les jours, je pense qu'au niveau fatigue, il ne pourra pas s'en remettre.
Et dans le transport, rien n'oblige à porter le masque, déplore Bruno Lamotte de l'association de malades du Rhin Rénalou.
Les personnes immunodéprimées subiront pendant des heures, dans un milieu clos, une situation dans laquelle elles seront exposées à un risque supplémentaire. Par les autres malades, par les transporteurs, et on vous force à prendre ce transport.
Pour obtenir un transport individuel, il faudra que le médecin spécifie sur l'ordonnance que votre état est incompatible avec un transport partagé. Vous aurez tout de même la possibilité possibilité de refuser le transport partagé. Mais dans un premier temps, cette année, vous devrez alors faire l'avance des frais. Et à partir de l'année prochaine, il faudra payer une pénalité dont le montant n'est pas encore fixé.
Et en 2022, le transport sanitaire a coûté 6 milliards d'euros à la Sécu. Le gouvernement veut lutter plus efficacement contre la prostitution. Elle touche aujourd'hui 40 000 personnes en France, dont un tiers de mineurs, deux fois plus qu'il y a 10 ans. Alors, 8 ans après la loi de 2016 qui pénalise les clients, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a présenté hier un plan qui vise à mobiliser tous les acteurs pour abolir la prostitution, Estelle Kemrer.
Le gouvernement veut améliorer le parcours pour sortir les femmes du système prostitutionnel avec de nouvelles structures appelées les maisons de la mère et de l'enfant. Elles vont être créées dans chaque département pour accueillir les femmes victimes de violences et vont être rattachées à des CHU pour proposer un accompagnement complet aux travailleuses du sexe. Mais comment mobiliser les hôpitaux en pleine crise ? Pour Aurore Berger, c'est simple.
On renforce les moyens. J'étais à La Réunion, j'ai inauguré une de ces maisons. C'est 600 000 euros par an supplémentaires à La Réunion, uniquement pour créer la maison et garantir son bon fonctionnement, c'est-à-dire le recrutement des personnels, à la fois des intervenants sociaux, des professionnels soignants, les sages-femmes, des gynécologues, des infirmiers, personnel aussi de support. C'est des moyens supplémentaires qu'on assume.
Mais l'enveloppe budgétaire globale du plan de lutte n'a pas été précisée, mis à part 3 millions pour la création d'hébergements pour mineurs. Les associations abolitionnistes saluent la volonté politique du gouvernement, mais ne sont pas convaincues, comme l'explique Delphine Jarraud, déléguée générale de l'association L'Amicale du Nid.
On n'a pas du tout les moyens de mettre tout ça en œuvre. Pourquoi ? Par manque de moyens humains. Et donc financier. On déplore qu'il n'y ait pas de moyens fléchés. Les 3 millions par rapport aux mineurs, bon, il devrait y avoir peut-être, si j'ai bien compris, des appels à projets sur de l'hébergement. Il y a déjà des choses dans les tuyaux qui étaient prévues avant. Moi, ce que j'entends, c'est on va appliquer la loi, on va appliquer ce qu'on devrait déjà avoir appliqué. Donc c'est pour ça que maintenant, on va attendre au tournant.
Delphine Jarraud pointe aussi du doigt le montant de l'AFIS, l'aide financière d'insertion sociale pour les personnes en parcours de sortie de la prostitution. Elle n'a pas été augmentée par le gouvernement et reste à 342 euros par mois. Pour l'Amicale du Nid, c'est un montant indigne et presque dangereux pour les personnes concernées.
Estelle Kemrer. La direction de Radio France suspend Guillaume Meurice, l'humoriste, et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Dimanche dernier, sur l'antenne de France Inter, il a de nouveau qualifié Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, de sorte de nazi sans prépuce, fait pour lesquels Guillaume Meurice avait été visé par une plainte pour antisémitisme classée sans suite il y a une dizaine de jours. La météo matinée couverte au nord-est et sur la Nouvelle-Aquitaine, soleil partout ailleurs avant l'arrivée d'averses orageuses en Île-de-France, en Bourgogne et en Auvergne. Il fait 12 à Strasbourg, Brest et Paris, 9 à Bourges et Toulouse et jusqu'à 15 degrés à Nice.